culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bienvenue à chacun, nous voici ensemble pour un nouveau culte espoir. Bonjour Mildred.
Salut Marine.
Merci de m'accompagner pour ce temps de partage ensemble.
Avec grand plaisir.
Nous accueillons un nouvel invité pour trois cultes, Rickson Nobré, qui nous conduira dans cette série sur les commandements. Merci Rickson d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation, je suis honoré.
Bienvenue parmi nous. Alors pour te présenter un petit peu, tu es pasteur, marié, père de deux enfants. Et dans ton ministère actuel, tu es aussi responsable d'Espoir Média, qui travaille étroitement avec Espoir Radio. Tu as travaillé avec les jeunes aussi. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus?
Tout d'abord, je suis honoré d'être à Culte Espoir, que je suis depuis le début. Je suis tout d'abord reconnaissant de votre engagement, de votre intérêt pour le partage de notre foi par ce moyen. Alors, moi, je suis d'origine brésilienne. Mais depuis longtemps, Dieu m'a mis dans mon cœur une passion pour la francophonie. Je suis venu faire mes études en France. Après, j'ai travaillé quelques années à Paris. Et plus tard, on m'a invité à venir en Suisse pour travailler dans l'évangélisation générale. Et j'ai eu le privilège, comme tu as dit tout à l'heure, de travailler avec Mission Caleb pendant 7 ans. Et il y a quelques années, Dieu a mis dans mon cœur l'envie de lancer un ministère média. Et voilà que petit à petit, Dieu nous a ouvert les portes et Espoir Média, Espoir Radio et tous les espoirs que nous avons ici dans la FEDE en Suisse sont venus et ont vu le jour. Et voilà, j'ai la passion de l'évangélisation et maintenant des communications.
C'est voilà. Formidable. Mmh. Félicitations en tout cas.
Merci.
Et c'est chouette. Et aujourd'hui, tu nous as proposé un thème sur lequel tu as partagé avec nous. Les 10 commandements sont-ils encore valables aujourd'hui? Et puis, comment ça a eu un impact dans ta vie?
En fait, mon arrière-plan n'est pas évangélique, pas adventiste. J'étais membre d'une autre communauté qui avait d'autres valeurs, qui aime la Bible, une communauté chrétienne. Mais la Bible, elle est un peu décoratrice à quelque part, elle est un peu décorative. Et on avait la Bible à la maison, mais on ne prenait jamais à l'église. Et finalement, un jour, quand je rencontre des gens qui vivent une autre foi différente de la mienne, et puis rapidement, ils vont m'introduire la Bible et les choses que la Bible nous apporte. Et je commençais à étudier la Bible, et voilà que je découvre, moi, chrétien, la Bible, enfin. Et voilà, un thème qui m'a vraiment touché, c'est les 10 commandements. Quand je suis tombé là-dessus, c'est quelque chose qui m'a frappé et a changé le cours de ma vie. Donc, je vais vous en parler. En fait, je ne vais pas venir pour présenter un sujet, je voudrais juste partager mon parcours par rapport à l'étude de la Bible et particulièrement par rapport aux commandements.
Alors, on se réjouit de t'écouter.
Merci.
Et nous invitons Dieu et son esprit à nous accompagner et nous parler, à te parler aussi, auditeur, à travers ce temps ensemble. Alors, sans plus attendre, allons-y. Est-ce que vous aimez les surprises?
Ah, c'est top.
Ouais, j'aime bien.
Moi, beaucoup. J'aime aussi les surprises incognito quand on ne sait pas de qui ça vient. Vous savez quoi? Eh bien, c'est aussi une façon que j'ai trouvé de partager les bénédictions de Dieu autour de moi. De temps en temps, j'ai l'occasion ou la motivation d'aller en nature ou en extérieur pour prendre un temps avec Dieu et lire la Bible ou prier plutôt que de le faire dans mon canapé. Et je me souviens de plusieurs occasions où ces moments m'ont fait un grand bien. Et je peux même vous dire quel texte m'a touchée ce jour-là. Une fois, après avoir pris le temps de méditer, noter mes réflexions, j'étais tellement heureuse de ce que j'avais reçu, tellement remplie que j'ai voulu le partager. Mais comment, j'étais toute seule sur un banc. Alors, j'avais des petites cartes dans ma Bible et j'y ai noté le texte qui m'avait touchée. Et j'ai rajouté un petit mot pour toi. Je l'ai laissé comme une bénédiction pour le prochain passant sur le banc sur lequel je m'étais assise. Et depuis, c'est quelque chose que je fais en général lorsque je lis dehors. Normalement, j'ai des cartes avec moi, de couleur ou blanche. Et puis, selon le moment, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose que je me force, mais c'est le partage de quelque chose qui m'a rempli.
Eh ben, c'est une bonne idée, ça.
Voilà. C'est une bénédiction déjà pour moi, parce que j'écris pas toujours sans rature, donc du coup, je recommence ma carte, et donc, je réécris le verset qui m'a déjà marqué, que j'ai déjà noté dans mon petit cahier. Et donc, j'enregistre. Et puis, ces cartes ratées finissent quelque part dans ma Bible, dans un sac, dans un porte-monnaie, que je retrouve des fois quand j'en ai besoin.
Ah, ouais.
Et en plus, j'ai la joie d'une gamine, juste en imaginant qu'est-ce qui va se passer après. Mais c'est un peu frustrant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et voilà, je prie pour que les gens qui trouvent ces petits mots, ben, ça puisse faire une différence dans leur journée, dans ce qu'ils vivent, qu'ils le prennent ou qu'ils le laissent. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça m'a fait penser à un texte qui nous dit qu'on est appelé à être une bonne odeur de Christ autour de nous. Souvent, on nous apprend à ne pas laisser de traces, surtout quand on est animateur jeunesse. Il ne faut rien laisser, tout nickel. Et pourquoi pas laisser une bonne odeur? Voilà, ça peut être une façon de le faire.
Très bien, très bien.
La promesse que je te partage aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 2 à 3. Je ne sais pas si vous êtes gourmand ou gastronome, à voir, mais ça donne vraiment envie. Regardez, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Lorsqu'on écoute et prête l'oreille à Dieu, il nous dit qu'on va se régaler, se délecter, qu'il y aura la vie et qu'il traitera alliance. C'est des beaux projets, n'est-ce pas?
Oui, certainement.
Oui. Et je vous propose de continuer avec ce chant justement, « Transforme-moi » de Luc Dumont, pour nous introduire dans ce temps de louange.
Libère-moi des
C'est une invitation à ne pas attendre pour demander de l'aide à Dieu, car il nous aime, il est prêt à nous transformer pour renaître et ne plus être loin de Dieu. C'est une belle invitation. Et cette musique, elle nous permet de continuer à exprimer notre adoration, à communiquer, à partager ce qu'on a sur le cœur. Et la prochaine chanson, Ta volonté, de la chorale Aquarium, elle va nous parler justement de demander à Dieu que sa volonté soit ancrée dans nos cœurs.
Comme l'oiseau qui te son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes voeux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux. Et te voir de mes yeux. Comme l'oiseau quitte son nid, je désire m'envoler vers ta volonté. Comme une étoile dans le ciel, je désire rayonner, faire ta volonté. Aller là où tu veux et accomplir mes voeux auprès de toi, mon Dieu. Et te voir de mes yeux. Et te voir de mes yeux. Faire ta volonté.
Libre, alors pourquoi ne pas utiliser cette liberté pour demander conseil au grand créateur? La dernière chanson que je vous propose d'écouter, c'est Vase d'argile de Hillsong. qui nous rappelle que qui est notre Dieu. Un Dieu qui nous aime, qui veut nous donner le meilleur, même avec nos fragilités, nos imperfections, il continue à nous aimer.
J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce
Salut très chers auditeurs, nous avons la joie de faire plus connaissance avec notre invité du jour, Rickson Nobre. Rickson, raconte-nous, quel est ton arrière-plan culturel?
Alors, comme j'ai dit en introduction, je suis à l'origine brésilien, mais voilà, la vie m'a fait venir en Europe et j'ai vécu 10 ans en France, donc je suis devenu français. Depuis, j'ai vécu 10 ans en Suisse, je deviens suisse. De nationalité aussi. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens vraiment dans ma patrie, entre guillemets. Je ne me vois pas rentrer. Je crois que Dieu m'a envoyé ici, que j'ai voilà, une espèce de mission ici dans cette région du monde. Et je suis très content d'être là avec ma famille.
Bah, heureusement que tu es là. Mm-hmm. Et ta famille, alors, tu viens d'une famille chrétienne?
Alors, oui, toute ma famille a un background catholique. Mm-hmm. Ils sont bien ancrés dans la tradition, mais pas dans la pratique. Très peu pratiquent vraiment, mais la culture est extrêmement catholique. Donc, okay. Le Brésil, est la majorité mm-hmm. des habitants sont catholiques. Et j'ai grandi dans cette famille, mais depuis tout petit, je sais pas, il y avait quelque chose de qui m'attirait vers l'Église. En fait, quand j'étais tout petit, j'étais très très malade. Et quand ma mère m'a amené chez le médecin, elle habitait vraiment dans la campagne, finalement quand elle a pu rejoindre un médecin, il a dit « Madame, vous avez trop tardé, votre enfant va mourir hein. ». Ça, c'est presque sûr, parce que là, une pneumonie vraiment qui était assez agressive. Le médecin a dit bah, « Je suis désolé hein. ». Et puis ma mère, elle était inconsolable.
Bah, j'imagine bien.
Mon père m'a même essayé de l'aider en disant, la réconforter en disant que si jamais celui-là il mourait, bon, ils allaient faire un autre.
Tellement pratique.
Bah voilà, il a essayé comme il a pu. Et en fait, ma mère à ce moment-là, elle a fait un pacte avec Dieu. Elle a dit, si cet enfant ne meurt pas, je te le donne, il sera prêtre. Et donc, elle a fait un pacte avec Dieu, avec la foi qu'elle avait. Et finalement, de façon assez miraculeuse, ben, je ne suis pas mort, comme vous pouvez constater aujourd'hui. Et depuis tout petit, ma mère me dit, mon fils, tu seras un prêtre.
Wow. Et c'est comme ça donc que vous êtes devenu pratiquant.
Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais cette envie. Et puis, je m'imaginais un jour m'engager pour l'Église et tout ça.
Ouais.
Donc, j'ai grandi avec cet arrière-plan d'Église.
D'accord. Donc, il y a eu une conversion dans ton parcours?
Oui, parce que j'étais engagé dans l'église là, catholique, j'étais responsable de la jeunesse, j'ai enseigné, j'étais prof à la confirmation.
Donc tu étais un membre actif.
Très actif, très très actif. J'étais le premier arrivé à l'église, le dernier à partir, j'ouvrais tôt, je préparais la messe, j'étais
c'était
vraiment...
dans le sang.
Exactement. Mais il me manquait quelque chose d'essentiel. Je faisais ça, et je le dirai tout à l'heure dans mon message, je faisais ça par... C'est pas par obligation, mais c'est comme si j'avais une mission, mais j'avais pas un sens profond.
D'accord.
C'est comme si je le faisais, mais tout en cherchant un sens à ce que je faisais. Et ça me dérangeait énormément. Mm-hmm. Et donc, à un moment donné, quand j'ai eu un contact véritable avec la parole de Dieu, la Bible, que j'ai pu l'ouvrir et étudier, là, j'ai vécu une conversion.
Une véritable conversion.
Parce que j'étais déjà un homme d'église, quelque part, un jeune d'église, mais là, j'ai vécu ma conversion, et ça s'est passé entre mes 17 et 18 ans.
Et comment ça se fait? Donc après, j'imagine, hein, c'était allé en crescendo, et tu es devenu pasteur en Suisse.
Alors, après ma conversion, j'ai décidé de partir vers une autre ville pour aller à l'université, parce que j'aimais bien un cours une faculté que cette université offrait. Et à ce moment-là, il y a eu une certaine coupure avec mon habitat naturel, toute ma famille, à savoir que pratiquement 80% de ma famille, qui est très nombreuse, habite dans le même quartier.
Ah ouais.
Et au milieu du quartier, il y avait l'église. Donc, j'étais vraiment enraciné dans tout ça. Et puis, le moment où je pars, c'est comme si j'avais la possibilité de respirer, de réfléchir, de prendre du temps. Et à ce moment-là, je vis ma conversion.
Tu as commencé à prendre des décisions par toi-même.
Exactement, exactement. Je me souviens même que j'ai étudié tellement la Bible et je me présente au pasteur en disant « Voilà, je fréquente l'église depuis 6 mois, l'église adventiste, et je voudrais me faire baptiser. » Il m'a dit « Mais l'église est très grande là-bas, hein. Il y avait 500 membres. » Il dit « Mais je vous ai jamais vu. » « Mais baptisé ?» Je dis « Oui. » « Ah bon, voilà. Dans 2 semaines, on aura baptême. » J'ai dit « Alors c'est bon, je suis prêt. »
Je suis prêt.
Et... Pourquoi ? Quelques mois après, je suis à l'église et je vois un pasteur qui rentre dans le baptistère. C'est le pasteur de l'école adventiste à côté. Il rentre avec un enfant de 10 ans, 12 ans qui se faisait baptiser. Et il rentre, je ne sais pas pourquoi, mais il est rentré de costume et cravate dans le baptistère, comme ça. Quand je vois ce monsieur dans le baptistère en train de baptiser quelqu'un, je dis mais quel métier, quelle chose merveilleuse de faire ça. Je ne sais pas, à ce moment-là, j'ai eu comme un envie qui est venu en moi en disant mais... Voilà ce que j'ai pour toi.
C'est ça que je veux pour ma vie.
Voilà. Et bon, j'ai dû me battre un petit peu pour accepter ça, parce que j'étais à l'Uni. Mm-hmm. Je faisais quelque chose que j'aimais bien. Et puis tout à coup, je vois ce sentiment. Et petit à petit, Dieu a travaillé dans mon cœur jusqu'au jour où je me suis un jour levé dans l'église en disant « Allez, j'accepte. » Et bah, je pars un an et quelques mois après ma conversion. je pars à l'université.
C'est beau.
Et un an et quelques mois après arriver à l'université, j'étais déjà en Afrique en tant que missionnaire.
Waouh, tout s'est enchaîné très vite.
Ah oui, très très vite. 2 ans après ma conversion, j'étais pasteur dans une église en Afrique.
Waouh. Et quelle est ta vision de la vie chrétienne? Quelle est ta devise?
Alors, c'est le service. Une chose que j'ai... Je suis heureux quand je peux servir, quand je peux travailler pour l'autre. Mm-hmm. Donc, le service... Quand parfois dans ma vie, j'ai eu du moment où je me suis dit « Allez, je prends du temps pour moi, je pense à moi et tout ça. » Ça va un petit moment, mais après, ça tourne pas rond en moi. Parce que je pense qu'une fois qu'on est appelé par le Christ, son sacrifice d'amour, il s'est donné complètement à nous. À ce moment-là, je ne peux pas faire autre chose à part me donner aussi. Donc, je suis heureux quand je me donne. Même quand je suis fatigué, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, j'ai plaisir, ça me fait... Ouais, je suis heureux quand je suis au service. Et bon,
Ça devient naturel.
Ça devient naturel, mais ma femme me tire un peu les oreilles parce que parfois, il faut que je me mette un peu de limites parce que j'aime beaucoup travailler. Surtout, j'ai le privilège de servir le Seigneur en tant que pasteur. Je travaille aussi dans les communications, Espoir Média, les églises, tout ça. Je pourrais faire ça tout le temps et puis parfois, il faut que je freine un peu.
Ah oui, il faut avoir un bon équilibre.
Voilà, mais j'ai le plaisir de servir, voilà.
Merci infiniment alors de nous avoir dévoilé un peu plus de toi. Mmh. Et je te laisse la parole pour la suite.
Très bien. Donc justement, dans ce cadre qui a été posé tout à l'heure par rapport à mon témoignage, je voudrais partager avec vous un élément qui m'a énormément frappé quand j'ai commencé à étudier la Bible. En fait... Il y a beaucoup de personnes, on n'imagine pas, qui ont une conviction religieuse, qui sont attachées à Dieu, qui ont une foi et qui vivent leur foi. Et je pense que Dieu aime beaucoup ces personnes et que Dieu les jugera de la façon la plus équitable possible parce que Dieu est un juge extrêmement fidèle, équilibré. Mais nous avons aussi cette invitation d'aller connaître les Écritures, étudier la Bible. Et donc, à quelque part, j'étais quelqu'un qui était passionné par Dieu, passionné par l'Église, mais qui ne connaissait pas les Écritures. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et un jour, j'ai eu l'occasion, c'est grâce, encore une fois, à l'école adventiste, là où j'habitais, parce qu'un jour, ma mère rentre à la maison et dit « Tu vas étudier dans la meilleure école de la ville. » On m'a dit que la meilleure école, c'est telle école. J'ai dit « Mais c'est quel nom bizarre, école adventiste. » Et quand je vais étudier dans cette école, je suis frappé par ces gens qui ne sont pas comme moi, mais qui sont chrétiens. Et puis, ils parlent des choses profondes, ils parlent de la Bible. Je ne connaissais rien. Tout à coup, il y a un cours de Bible et je commence à découvrir la Bible. Et puis, mon professeur, que plus tard, je vais comprendre qu'il était un pasteur, un jeune pasteur, il m'enchante dans la façon comme il présente les choses, son témoignage aussi. Et je suis touché. Parce que voilà, j'étais dans l'adoration des images, j'étais dans la tradition et je me sentais vraiment coupable parce que j'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur. Donc je devais toujours faire plus et quand même je sentais un vide.
Et malgré tous tes sacrifices, tous tes efforts, tu n'arrivais pas à te sentir comblé?
Oui. En fait, j'allais à l'église, j'organisais pas mal de choses. J'étais vraiment responsable de la liturgie. J'avais la jeunesse qui était là, on chantait ensemble, c'était sympa. Après, on sortait, on allait dans une espèce d'un café, on était ensemble. Après, on partait même en boîte et puis on dansait jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc, c'était comme ça mon week-end. Mais quand je rentrais à 2-3 heures du matin, parfois, je pleurais comme un bébé parce que il n'y avait pas de sens, quoi. J'appelle ça la douleur du vide. Quand tu fais quelque chose, quand tu vis quelque chose, mais au fond de toi, il manque l'essence et je n'avais pas cette essence. Et en fait, quand je commence à étudier dans cette école, quand je commence à étudier la Bible, je découvre certaines choses qui vont me frapper et qui vont m'interpeller. Et parmi ces choses, je découvre les 10 commandements. Et pourquoi les 10 commandements, pour moi, c'était important? Parce que je voyais Dieu comme un Dieu qui était là en train de me regarder juste pour voir où j'ai fauté, juste pour mesurer un petit peu ma vie. Et quand j'entendais parler des 10 commandements, je pense qu'on avait même un tableau à la maison où il y avait les 10 commandements comme ça, mais j'ai jamais lu ni regardé en détail. Donc je voyais ça comme une espèce d'imposition, comme voilà, on va être mesuré par ça. Donc c'était quelque chose que je craignais un petit peu. Et tout à coup, en étudiant, d'abord je découvre que toute la Bible a été inspirée, mais les 10 commandements ont été écrits par la main de Dieu. Et ça m'a touché. Je dis waouh, ça a été écrit par Dieu, donc c'est vraiment important, quoi. Et Dieu a pris la peine, c'est pas la peine, mais voilà, Dieu voulait tellement que ça soit spécial qu'il a écrit de sa main. Donc ça m'a interpellé. Donc j'ai commencé à étudier davantage et j'ai découvert des choses qui sont vraiment merveilleuses, qui m'ont libéré. J'ai découvert que dans les 10 commandements, il y a en fait la relation qui est exprimée, la relation que Dieu veut avoir avec nous. Et j'ai découvert aussi la façon comme Dieu veut établir nos relations entre nous, les êtres humains. J'ai découvert un Dieu qui, certaines versions vont dire un Dieu qui est jaloux, mais un Dieu qui nous chérit tellement, qui veut tellement notre bien, qui nous dit « Viens, je veux rentrer dans une relation spéciale et particulière avec toi ». Ne t'embrouille pas avec d'autres genres de relations qui vont te voler, qui vont t'imposer des choses. Et là, je découvre la liberté dans cette relation. Donc, mon regard par rapport à Dieu commence à changer. Et je découvre donc que les 4 premiers commandements parlent de cette relation. Et une chose qui va me frapper, je vais parler dans la semaine prochaine, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, hein, j'adorais certaines images, j'avais une certaine foi dans quelque chose qui n'était pas Dieu. Et j'ai découvert que cette relation n'est pas optimale. C'est Dieu à Dieu directement qu'on doit parler. Donc voilà, toutes ces choses que j'avais, ces schémas que j'avais dans mon esprit commencent à tomber et en même temps, quelque chose de nouveau commence à naître. Et après, je me suis dit, mais si Dieu a écrit... et que ce n'est pas quelque chose pour nous mettre des barrières, c'est quelque chose qui nous rend libres, c'est quelque chose qui améliore notre relation avec Dieu, mais en même temps, ça met un cadre pour notre relation avec autrui. Où est Jésus dans tout ça? Parce que moi, Jésus, c'était mon champion, quoi, Jésus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus dit par rapport aux 10 commandements? Et dans ma démarche d'étude de la Bible, je tombe sur ce verset, où Jésus dit dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et je regarde un petit peu le comportement de Dieu par rapport au commandement et je comprends que Jésus, c'est la vision que j'avais avant, je pensais que Jésus était quelque chose de nouveau, quelqu'un qui changeait un peu la donne. Qui,
il était plus cool, en fait.
Voilà, qui lançait ça dans un coin et dit « Maintenant, je vais vous apprendre à vivre vraiment. » Et non, en fait, il est venu dans un cadre. Et dans ce cadre, nous retrouvons la liberté. Moi, je pensais avant que si on enlevait le cadre, on avait plus de liberté, que Jésus avait enlevé le cadre. Et c'est pour ça que je regardais les 10 commandements comme quelque chose qui était un peu... J'avais un peu de la méfiance. Mais en fait, j'ai découvert que dans un cadre, c'est là que nous sommes libres. Et je fais un parallèle par rapport à l'éducation des enfants. Hein. Maintenant, je suis même papa d'un jeune qui a 18 ans, ma fille a 12 ans. Et j'ai découvert, en étant parent, que plus tu donnes un cadre à tes enfants, pas pour les réprimander, je donne un cadre de vie, hein, plus ils sont heureux et épanouis, parce qu'ils savent qui ils sont, où ils peuvent aller, comment agir. Plus tu dis voilà les valeurs, les principes qui vont te rendre heureux, plus ils sont épanouis. Un enfant qui n'a aucun cadre, c'est un enfant malheureux, parce qu'il va chercher toujours les limites, il ne va pas les trouver, il va tout essayer, et à un moment donné, ça ne tourne pas rond. Et donc, je découvre un Dieu un Jésus, qui aime, qui nous laisse toute la liberté, mais il donne des valeurs qui créent un cadre. Et ça m'a énormément rassuré. Donc, dans cette démarche, je dis « waouh ». Après, je me suis dit « où est-ce qu'on met cette loi? Est-ce que je dois faire un listing et régulièrement consulter ce listing ?» Parce que j'avais l'habitude de... J'ai fait ça 2-3 fois, je me souviens aujourd'hui, j'ai un peu honte, mais je listais les choses mauvaises que je faisais et je disais, dorénavant, je ne le ferai plus. J'ai fait ça 2-3 fois parce que je voudrais vraiment un changement de ma vie et ça ne fonctionnait pas. Et je me suis dit que les 10 commandements, ben voilà, il fallait vraiment voir un peu les détails et les suivre. Et j'ai découvert en fait que les 10 commandements, ce n'est pas une liste de règles à suivre, ce sont des valeurs et des principes que naturellement tu les insères dans ton cœur.
Voilà, et justement, quand on les intègre, après ça va naturellement.
Exactement. Et il y a un verset qui m'a fait comprendre ça, donc Hébreux 8, 10, qui dit « Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, j'ai compris qu'il y a un Père qui veut mon bien, qui m'a donné des valeurs, et ce cadre que Dieu me donne me rend libre. Et je n'ai plus peur de lui, je n'ai pas une liste de tâches à accomplir pour qu'il m'aime. Il m'aime parce que il est Dieu, il m'a créé, il m'a sauvé en Jésus. Jésus, il vit aussi ses valeurs, ses principes, et j'ai pu constater ça. Même les disciples, après, ils vont suivre ses conseils et l'exemple de Jésus. Donc, ça m'a donné une paix. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, en fait. On se sent mal, on se sent mauvais, mais parfois, on ne comprend pas d'où ça vient, comment ça se passe et tout. En fait, j'ai compris que les 10 commandements fonctionnent comme un miroir. C'est-à-dire, quand je regarde les valeurs de Dieu, moi je parle des 10 commandements, encore une fois, je me répète, hein, ce n'est pas une liste de tâches, une liste de choses à accomplir, mais quand je regarde les valeurs que Dieu a mises dans les 10 commandements, c'est comme si c'était une espèce de miroir. Et c'est l'image qu'on m'a expliquée à l'époque qui m'a énormément aidé. Donc, quand on a envie de voir comment on est réellement, on va devant le miroir. Et souvent, on doit corriger certaines choses, n'est-ce pas, les filles?
Oui, oui.
Souvent, les filles ont quelque chose à corriger.
Des fois, ça prend plus de temps que d'autres.
Oui, c'est ça. Tout dépend. Mais donc, le miroir, on l'apprécie parce qu'il raconte, il dit la vérité. Il montre l'état vraiment comme tu es. Je pense que si nous aurions des miroirs à la maison qui nous montaient à chaque matin, on allait vite s'en débarrasser parce que les gens, après, on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec lui, hein? Parce que tous les jours, il est un peu comme ça. Heureusement que le miroir nous raconte la vérité. Donc, quand je vais vers ce miroir qui est donc la parole de Dieu, je rencontre une vérité. C'est qui je suis, mon état actuel, et je comprends donc que le péché, c'est quand je vois qu'il y a quelque chose en moi qui ne tourne pas très rond et que je laisse. Et les valeurs de Dieu me disent, voilà, il y a un souci, je ne t'oblige pas à régler ce souci, mais tu as une tâche à quelque part, mais si tu veux, je peux t'aider à que tu n'aies plus cette tâche et qu'on évite d'en avoir d'autres. Et cette image-là m'a énormément aidé. Donc, il y a un verset qui m'a aidé aussi par rapport à ça, c'est 1 Jean 3, 4, qui dit « Quiconque pêche transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. » Donc, j'ai compris que la loi était un révélateur. C'est comme ce produit que parfois, tu es dans le domaine de la santé, non? Parfois, on met des produits pour faire des scanners et tout ça, non? Il y a des trucs pour contraster. Donc, la parole de Dieu, les 10 commandements, m'aide à voir le contraste entre ce que je veux et ce que je suis réellement. Et en même temps, il y a cet appel, cette main tendue pour dire, écoute, t'es pas obligé, mais si tu veux t'en sortir, si tu veux t'en débarrasser de ça, de ta petite liste là que tu essayes toujours d'éliminer, que tu n'y arrives pas, je suis là pour t'accompagner. Et ça a été quelque chose de très, très positif. Donc c'est pour ça que les 10 commandements m'ont donné un sens, m'ont donné un cadre, m'ont donné une direction, m'ont fait comprendre qui j'y étais réellement, et surtout cette paix intérieure, parce que même si parfois je me vois sale, il vaut mieux me savoir que je suis sale que d'être dans l'ignorance.
Dans l'ignorance, exact. Voilà. C'est un miroir fiable.
Exactement.
Comme vous le savez, il arrive que des artistes fassent référence à Dieu dans leurs œuvres d'art. J'ai choisi un film pour notre chronique « Dieu dans les arts » d'aujourd'hui. Il s'agit du film « Tu ne tueras point ». Vous l'avez déjà vu ?
Oui, bien sûr.
Ah, tiens, vous allez me raconter tout à l'heure. Tout se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une histoire vraie. Desmond, un jeune Américain, se retrouvait confronté à un dilemme. Il voulait servir son pays, comme beaucoup de compatriotes, mais la violence était quelque chose d'inacceptable pour lui. Tout ça était complètement à l'opposé de ses croyances et de ses principes moraux. Il ne pouvait pas envisager de porter une arme. Alors tuer quelqu'un, quelque chose d'impensable. Ce jeune homme, ce jeune soldat, voulait, quoi qu'il arrive, respecter les 10 commandements. Malgré tout, Desmond Doss s'est quand même engagé dans l'infanterie comme infirmier, comme soignant de guerre. Ses camarades de guerre lui ont mené la vie dure, comme vous pouvez l'imaginer, hein, un soldat qui ne veut pas porter une arme. Sa seule arme de guerre, c'était la foi, et de cette façon, il est devenu un des plus grands héros lors de la bataille d'Okinawa. Un film passionnant où on voit l'exploit miraculeux d'un simple mortel qui ne pouvait pas lutter contre sa conscience. C'est un très beau film, violent sans doute, c'est la guerre. Ouais. Donc, chers auditeurs, éloigne tes enfants, les scènes sont très fortes. Préparez vos mouchoirs, la bande-annonce est là.
Qu'est-ce que vous foutez, capitaine ?
Nous attendons, mon colonel.
Et vous attendez quoi ?
Le soldat Doss.
Mais bon sang, c'est qui ce soldat Doss ?
J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi.
Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes ?
Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir.
Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi.
Désolé, sergent, je touche pas aux armes.
Vous ne tuez pas ?
Non, monsieur.
Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre.
Le soldat Doss ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat.
Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté.
Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison.
Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois ?
Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux.
Soldat Doss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger.
Je vais te ramener chez toi.
Il faut que vous veniez voir.
Qui a fait ça ?
Ça, c'est le lâche.
On doit retourner là-bas demain. Et ils refuseront d'y aller sans toi.
Aide-moi, il faut me faire confiance.
Tu as intérêt à me revenir.
Pitié, Seigneur. Faites que j'en sauve un de plus.
Waouh, il a l'air vraiment interpellant, impressionnant, je ne l'ai pas vu. Mais ce jeune homme qui part sans armes au front, eh bien ça interpelle.
Est-ce qu'il est interdit de spoiler ?
Non, pas trop, mais on va laisser la surprise.
D'accord, il y a une petite scène, je dis rapidement, dans ce film, où au départ, il est méprisé par les collègues, et finalement, quand il fait ce qu'il fait dans le champ, qui va sauver des vies, ils ne veulent plus aller sans que Doss soit à quelque part prêt. Et à un moment donné, il y a tout le bataillon qui attend, ouais. Doss, qui est en train de prier.
C'est juste impressionnant. C'est,
ouais. Voilà, donc il ne faut pas louper ce film. Bon, c'est vrai, il est violent, mais le message qui est derrière est très intéressant.
Non, il est magnifique.
Oui, merci de ce partage. Notre thème d'aujourd'hui m'a aussi fait penser à un livre que j'ai lu dernièrement et que je voudrais partager avec vous. Ce livre s'appelle « Quand une femme dit oui à Dieu ». Faites l'expérience d'une vie extraordinaire. Il est de Lisa Terkhurst, qui est auteure, et responsable d'un ministère Proverbs 31 aux États-Unis, qui est mondialement connu. C'est un livre qui s'adresse peut-être plutôt pour les femmes, mais pourquoi pas
aux hommes.
Les hommes peuvent le lire. Elle nous partage son expérience dans laquelle elle a appris à dire oui à Dieu. Il est très pratique, ce livre, basé sur ses expériences de vie, toutes ces expériences dans lesquelles elle a dit oui, dans des petites choses de tous les jours ou dans des grandes décisions familiales comme l'adoption. Elle témoigne de comment Dieu lui a appris à discerner sa voix, à lui faire confiance et aussi à la bénédiction qu'est l'obéissance radicale. Ça, c'est un mot qui peut faire peur, mais qui est riche de bénédictions. Elle enrichit son partage et son livre d'études bibliques après chaque chapitre, qui nous permettent à nous d'approfondir sa réflexion et d'entrer nous-mêmes à notre rythme dans ce cheminement. Alors, trois petites lettres qui peuvent changer toute notre vie. Oui, vous serez bouleversé en découvrant combien Dieu désire œuvrer en vous, en nous et à travers nous. Alors ça, c'est « Quand une femme dit oui à Dieu » de Lisa Terkhurst.
Salut chers auditeurs, si tu viens de nous retrouver, tu es connecté au Culte Espoir. Aujourd'hui, notre invité d'honneur, Rickson Nobre, nous a apporté un thème très intéressant. Nous avons parlé des 10 commandements et nous avons pu faire connaissance et connaître aussi son histoire, comment il s'est converti, comment tu as rencontré Dieu en fait. Mm-hmm. Alors, est-ce que les 10 commandements sont encore valables aujourd'hui? Du coup, je me tourne vers nous, notre équipe ici présente, et je nous pose cette célèbre question de notre chronique. Hein? Et toi, ça te parle? S'il y avait une chose, Marilyn, que tu voudrais retenir de ce message, ce serait quoi?
Alors, quelque chose qui m'a interpellée, c'est cette idée justement d'avoir la loi comme un miroir fiable. Mm-hmm. Qui, ça fait peut-être un peu mal de voir qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas à la hauteur. Mais c'est fiable, et puis surtout il y a cette bienveillance de Dieu qui est prêt à marcher avec nous pour nous aider à changer. Et je trouve que ça c'est positif de voir la chose comme ça.
Et ça nous permet de réagir en fait, hein, parce qu'on a vu quelque chose qui n'est pas bien, ben on a envie de nettoyer tout ça.
Ouais, la plus grande prison qui soit, c'est l'ignorance. C'est ne pas savoir qui tu es, où tu vas, et ce sont les questions que je me posais. D'abord, je ne savais pas pourquoi j'existais, pourquoi j'étais né et à quoi servait la vie. Donc, ces choses me trottaient dans la tête. Et au fur et à mesure que j'ai connu Dieu, j'ai trouvé réponse à ces questions. Et ça fait un bien fou, quoi.
Ouais, ouais, exact. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi quand tu as parlé du cadre à poser. Hein, parce que moi, en tout cas, je pense que pour les 10 commandements, il faut déjà comprendre quel est le projet qu'il y a derrière les 10 commandements. Ce n'est pas Dieu, il ne nous a pas posé ces règles juste par le plaisir de nous interdire de quelque chose. Et effectivement, quand il y a un cadre, cela nous protège, cela nous montre des limites et nous savons jusqu'où on peut aller, comment et de quelle façon nous pouvons nous maintenir en sécurité.
Je parle souvent aussi d'une liberté responsable. Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue, peut-être la parabole la plus connue. Benjamin arrive et dit voilà, je prends ma part de l'héritage et je pars. Vous connaissez bien l'histoire.
Oui.
Et le père, quelque part, il est tué par cette demande, parce que normalement, l'héritage, on la touche après le décès des parents.
Ouais, pas avant.
Et pas avant. Donc, il tue son père, entre guillemets, pour partir avec l'argent. Et ce père, dans cette histoire qui représente Dieu, il dit ok, là, il y a la liberté. Mais une liberté responsable. Il lui donne l'argent, il part. Et pendant son voyage, il va dépenser tout son argent. Il va faire tout ce qu'il veut. Il va être libre selon ses concepts, mais sans cadre. Hein? Il est libre sans cadre. Le papa lui a donné la liberté, mais avec un cadre. Quand son argent est fini, quand il était dans la misère, dans la détresse, hein, et qu'il va même manger avec les porcs, est-ce que dans l'histoire, vous voyez le père qui part là-bas pour lui donner encore plus d'argent?
Ah oh non.
Est-ce que le père va là-bas pour dire, écoute, j'ai parlé à un copain, il a un autre un boulot mieux pour toi? Non, le père, il est où? Il est toujours à l'entrée de la maison, en train
là
de regarder.
Là où le fils l'a laissé,
exactement.
En fait.
Il attend que le fils réalise que sa liberté, qui est une liberté à bon marché, qu'il assume les conséquences de son choix et qu'il revienne. Et le jour où il reviendra, pour cette liberté responsable, le Père, il est là, les bras ouverts. Donc, il y a une différence entre la liberté que certains cherchent en disant « je peux tout faire, il n'y a pas de limite », elle est très dangereuse et elle fait très très mal. Et on finit par se perdre. Tandis que la liberté responsable dans un cadre, elle nous donne de la paix, la sécurité, l'assurance, et on ressent l'amour. Quand deux personnes s'aiment, il y a quelque part un certain respect, il y a une responsabilité. Quand deux personnes se marient, automatiquement, on n'a pas besoin de sortir une liste, hein, mais il y a « je prends du temps pour toi, je te protège, je suis là pour subvenir à tes besoins, je suis là pour t'aider. » Et plus tu te donnes, plus tu reçois. Mais à partir du moment que tu t'engages et en même temps tu dis « écoute, je suis engagé avec toi, mais pas trop quand même, parce que j'ai besoin de vivre ma liberté », la relation, elle est finie.
Ouais.
Donc, liberté responsable.
Et aussi, ça va dans les deux sens. Parce que finalement, bah, dans cet exemple du couple, il y en a un qui donne, l'autre donne en retour et tout. Et nous, pareil, parce que Dieu, il nous a aimés en premier.
Mmh.
Donc, et quand on voit cet amour, on a juste envie aussi de lui rendre l'appareil.
Tout à fait. Mmh. J'imagine quand ce fils prodigue était là et qu'il a commencé à réfléchir, il a pensé à tout l'amour que son père avait pour lui et même le courage que le père a eu de lui laisser partir la moitié de l'héritage. Il dit, mais mon père, franchement, je pense que ça l'a frappé, toute cette liberté responsable que son père lui avait donnée en comparaison de sa liberté bon marché qu'il avait essayé de suivre. Ben, voilà.
Bah, du coup, aujourd'hui, on pourrait dire que les 10 commandements sont toujours valables.
Ah, effectivement. Mmh. Effectivement.
Et peut-être même si chaque être humain, c'est chaque individu, arrivait à avoir ces 10 commandements devant ses yeux et se dire, tiens, voilà, tout ça est pour me protéger, tout ça est pour me donner une belle vie, Dieu, il a des projets merveilleux pour moi, peut-être notre société serait meilleure.
Sans aucun doute. Vous imaginez déjà la deuxième partie des 10 commandements parle des relations entre les êtres humains, comme nous avons mentionné tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'institution qui est la plus fracassée, attaquée et qui souffre, c'est la famille.
Mmh,
et les 10 commandements protègent la famille. On parle souvent des 10 commandements, mais en fait, ce sont 10 paroles. Donc, ce sont 10 messages d'amour. Et souvent, on interprète comme des choses qui nous...
Ouais, on voit plutôt comme des interdictions.
Des interdictions, justement. Mais en fait, ce sont 10 paroles libératrices qui protègent pour notre plus grand bien. Et puis, justement, la famille, si on mettait les valeurs du 6e au 10e commandement dans la vie de tous les jours, vous rappelez, l'adultère, on a tellement de divorces, tellement de situations compliquées, tellement des enfants qui naissent sans père, parce que voilà, il y a cette liberté bon marché qui est là et qui font en sorte que la société de plus en plus souffre de
ça. Se dégrade.
Oui, il y a le meurtre, oui, mais il y a aussi le mensonge. Il y a les gens qui envient ce que les autres ont. Ils sont capables de faire des choses invraisemblables pour pouvoir avoir ce que l'autre a. Donc, si on avait vraiment ces valeurs dans notre cœur, la société serait vraiment différente.
Alors, ça vaut la peine. On va adhérer à tout ça.
Amen.
Dieu a souhaité faire une alliance avec son peuple et comme on parlait, un petit peu comme dans le mariage, mais signer une alliance ne suffit pas. Il fallait que les actes suivent. Il ne faut pas juste que des paroles dire qu'on s'aime, c'est bien, mais quand il y a une démonstration d'amour, c'est encore mieux. Alors comment pouvons-nous devenir le peuple choisi par Dieu en obéissant à ses commandements? C'est à travers une relation avec Dieu, une attitude cohérente que nous grandissons dans la foi.
Eh oui, marcher avec Dieu ne se limite pas seulement à de belles paroles. Il faut agir, les amis.
Eh oui, Dieu a un projet et des projets pour un monde meilleur. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé ces règles très claires, qu'on puisse en fait déjà se projeter, commencer à s'habituer à vivre selon ces nouvelles règles de son monde. Dans beaucoup de pays, beaucoup de nations avec un héritage chrétien se sont inspirées des 10 commandements d'ailleurs pour établir leur système législatif. Alors, je pense que les 10 commandements ont pour objectif de nous protéger. Ils favorisent aussi les liens avec Dieu et avec nos prochains, c'est comme on a parlé.
Oui, nous pouvons demander à Dieu de nous donner la compréhension du sens des 10 commandements à la lumière de la justice biblique. On va parler avec Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces temps d'échange, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à vivre selon tes valeurs, parce que ces valeurs nous protègent, ces valeurs nous donnent un cap, nous donnent un sens. Je voudrais te remercier pour les choses que tu as faites dans ma vie par rapport à ça, mais que tu puisses aussi faire pour tous ceux qui sont en ce moment en recherche, qui veulent te connaître davantage, et que ces paroles que tu as écrites de ta main puissent aussi être écrites dans nos cœurs, dans le cœur de nos auditeurs, dans le cœur de ceux qui nous regardent, et que tout cela puisse nous inspirer, nous donner une vie meilleure. Que tu bénisses donc chacun qui est avec nous virtuellement, actuellement, pour qu'il puisse aussi retrouver cette paix merveilleuse qui vient de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Est-ce que vous savez quel est le plus long chapitre de la Bible?
Oui.
Alors, vas-y, dis.
Psaume 119.
Exactement. C'est le psaume 119. Il comporte 176 versets regroupés en 22 strophes de 8 vers. Le psaume 119 fait partie de quelques poèmes acrostiches que l'on trouve dans la Bible. Dans le texte hébreu, chacun des 8 versets de chaque strophe commence par la même lettre hébraïque. Cette caractéristique n'a pas été maintenue dans nos traductions. Le thème central de ce psaume est la loi. C'est un poème sur la loi, la parole et les préceptes de Dieu. Vous imaginez un poème là-dessus? Alors, comme il est long, probablement on a de la peine à s'y mettre. Alors, je vous propose un défi lecture. On va se mettre à la lecture. Lire le psaume 119 en 12 jours. Chaque jour, 16 versets. 24 versets le dernier jour. C'est faisable, non? Hein? C'est faisable?
Oui, ok.
Alors, vous pourrez y noter les déclarations, les demandes de l'auteur par rapport à la parole de Dieu, et vous trouverez sûrement dans chaque extrait une phrase qui pourrait vous interpeller, vous déranger peut-être, ou vous encourager dans votre recherche de Dieu, dans votre marche avec lui en quête d'obéissance. Prêt pour cette aventure?
Allez, on y va.
Bah oui.
Alors, bonne lecture et j'ai prié que Dieu vous inspire, vous rencontre et que ce soit, pourquoi pas, l'occasion de découvrir la loi d'une nouvelle façon.
Et merci,
Yenna. Super, merci.
Merci pour cette action. Un joli défi qui n'a peut-être pas l'air difficile, mais justement, pourquoi pas en profiter.
Ça vaut la peine.
Nous voilà déjà arrivés à la fin de notre culte espoir. Merci Mildred, merci Rickson d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ces paroles et ces encouragements, ces réflexions continuent à nous inspirer et qu'on puisse découvrir combien il est bon d'écouter et de faire confiance à Dieu, parce qu'au final, c'est un peu de ça qu'on a parlé. Sois béni, cher auditeur, et au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. De quoi vas-tu nous parler, Rickson?
Nous allons continuer sur les 10 commandements, mais nous allons voir un peu le résumé que Jésus a fait de ces commandements, comment les appliquer dans notre vie.
Ah, super! Alors, d'ici là, ne manquez pas le prochain rendez-vous, soyez bénis et à très bientôt.
À très bientôt, bye bye!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.